Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi en temps universel et 13h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour. Il connaît bien les lieux. Donald Trump reçu tout à l'heure à la Maison Blanche par son successeur et prédécesseur Joe Biden. Le président élu qui peaufine le casting de sa future administration. Comme promis, le milliardaire Elon Musk en fait partie. Plus surprenant en revanche, le nouveau ministre de la Défense. L'émotion en Israël après la publication d'une nouvelle vidéo d'otages retenus à Gaza. Des images diffusées par le djihad islamique. À suivre aussi, pas de fleurs. Pas de bougies, pas de photos, pas de commentaires en Chine. Après une attaque à la voiture Bélier qui a fait 35 morts dans le sud, plus de 65 000 personnes accréditées à la COP29 de Bakou. On verra qui sont les participants et d'où ils viennent. Et puis trois candidats pour la présidence du rugby mondial. L'élection, c'est demain. Parmi eux, l'ancien capitaine de l'équipe de France, Abdelatif Benazi.
Comme un goût de revanche aux États-Unis, Donald Trump sera reçu tout à l'heure à la Maison-Blanche.
Oui, dans le bureau ovale qu'il s'apprête donc à retrouver. Entretien avec le président sortant, Joe Biden, a promis un transfert de pouvoir pacifique et ordonné. En attendant sa réinstallation, Donald Trump affine le casting de sa future administration. Chose promise donc, le milliardaire Elon Musk est récompensé. Il sera chargé d'un nouveau ministère dit de l'efficacité gouvernementale. Ça, c'était attendu. Beaucoup moins, en revanche, la personnalité choisie pour le ministère de la Défense, vétéran de l'armée américaine, habitué des plateaux télé. C'est un choix inhabituel, Lila Olkinoura.
Inhabituel, c'est le moins qu'on puisse dire. Pete Hegseth est un ancien major de l'armée de terre de 44 ans, originaire du Minnesota. Il a servi en Afghanistan, en Irak et à Cuba, mais il est surtout, depuis 2017, co-animateur d'une émission de débat sur la chaîne Fox News. Il y partage ses visions ultra-conservatrices de l'armée.
Je le dis comme je le pense, on ne devrait pas avoir de femmes à des postes de combat. Ça ne nous rend pas plus efficaces, ni plus forts sur le terrain, et ça a complexifié le combat.
Pete Hegseth partage la bataille idéologique de Donald Trump contre ce qu'ils appellent les dérives woke de la société américaine. Le futur locataire de la Maison Blanche a déjà déclaré vouloir purger l'armée de ses fonctionnaires progressistes et déloyaux, une position que Pete Hegseth a encore défendue la semaine dernière.
N'importe quel général ou amiral qui a été impliqué dans les programmes de diversité, d'inclusivité de l'armée, toutes ces conneries woke, doit dégager. La confiance en l'état-major est brisée, il faut la reconstruire en mettant de vrais combattants de guerre à ces postes. Des personnes qui ne vont pas plier face à la bêtise du politiquement correct.
Cette nomination a aggravé l'inquiétude qui régnait déjà au sein de la défense américaine. Pour de nombreux analystes, Pete Hegseth n'est pas qualifié pour le poste traditionnellement proposé à des élus expérimentés ou à d'anciens chefs d'état-major. Si sa nomination est approuvée par le Sénat, Pete Hegseth deviendrait l'un des secrétaires de la défense les moins gradés pour l'armée la plus puissante du monde.
Parmi les autres annonces, Steven Witkoff est nommé envoyé spécial pour le Moyen-Orient et Mike Huckabee, ambassadeur américain en Israël. Mike Huckabee qui avait notamment déclaré « Il n'y a pas de Palestiniens, il n'y a pas de Cisjordanie, mais plutôt la Judée-Samarie ». C'est l'appellation biblique de ce territoire palestinien illégalement occupé par l'État hébreu. Donc c'est un message, on le comprend, très clair de soutien aux autorités israéliennes.
Israël, où le Forum des familles des otages dénonce une vidéo horrible.
Des images publiées par le djihad islamique d'un otage retenu en captivité dans la bande de Gaza. Michel Paul, on vous retrouve, vous êtes en direct de Jérusalem. Sur cette vidéo, on voit, c'est ça, un jeune homme barbu qui s'identifie comme Sacha Troupanov, un israélo-russe enlevé le 7 octobre 2023.
Oui, Sacha Troupanov, il parle de son année de détention marquée par des privations, manque de nourriture, d'eau, pas d'électricité, je n'ai plus accès aux produits d'hygiène basiques, affirme l'otage. Mon plus grand danger, dit-il encore, c'est l'armée israélienne et il appelle les Israéliens à intensifier les manifestations pour faire pression sur le gouvernement israélien. Ne croyez pas ce que vous raconte Netanyahou, dit-il encore. Sacha Troupanov est détenu par le djihad islamique. Sa compagne Sapir Cohen, sa mère et sa grand-mère ont été libérées en novembre dernier lors de l'unique trêve à Gaza. Son père Vitali a lui été tué lors de l'attaque palestinienne du 7 octobre. Je suis soulagé de voir mon fils vivant, mais je suis très inquiète d'entendre ce qu'il dit, souligne sa mère Yelena, qui a demandé aux médias de diffuser cette vidéo. Sacha Troupanov possède également la nationalité russe. Et récemment, on a indiqué que le Kremlin tentait d'obtenir sa libération en compagnie d'autres binationaux. Et en Israël, on estime en tout cas que le djihad islamique signale clairement sa volonté de négocier un échange de prisonniers avec cette vidéo.
Michel Paul, en direct de Jérusalem.
Concernant Gaza, le chef de la diplomatie américaine a appelé les autorités israéliennes à des pauses humanitaires prolongées.
Anthony Blinken, futur ex-secrétaire d'État à Bruxelles. En ce moment, c'est l'un de ses derniers déplacements en tant que secrétaire d'État. Donc, il a notamment rencontré ce matin le patron de l'OTAN, Mark Rutte. Des rendez-vous aussi sont prévus avec les chefs de la diplomatie européenne et ukrainienne. Au cœur de cette visite, Daniel Valo, il y a la guerre en Ukraine.
Oui, avec un double objectif pour le chef de la diplomatie américaine, rassurer les Ukrainiens sur l'engagement américain contre la Russie et tenter de mobiliser les Européens pour donner un coup d'accélérateur à l'aide à l'Ukraine. Pourquoi accélérer? Eh bien, tout simplement en raison de l'élection de Donald Trump, élection qui risque de rebattre très vite les cartes du soutien occidental à l'Ukraine. La crainte de l'administration Biden, c'est de voir le nouveau locataire de la Maison-Blanche réduire cette aide, voire y couper court. C'est ce qu'a menacé de faire Donald Trump durant la campagne électorale. Jusqu'au dernier moment, l'administration américaine va donc tenter de livrer toute l'aide militaire qui a déjà été votée par le Congrès. Il reste, selon le Pentagone, une enveloppe d'environ 9 milliards de dollars à attribuer.
Et Anthony Blinken va également mettre la pression sur les Européens pour qu'ils montent en puissance sur l'aide en Ukraine.
Oui, c'est évidemment la grande question. Les Européens pourront-ils prendre le relais des États-Unis si Donald Trump décide de couper le robinet de l'aide américaine? La question est d'autant plus délicate que les dirigeants européens qui sont aujourd'hui favorables à cette aide sont fragilisés, à commencer bien sûr par Emmanuel Macron en France ou Olaf Scholz en Allemagne. Les Européens auront-ils la volonté et les moyens de suppléer à l'aide américaine? Question cruciale pour les Ukrainiens qui ont un début de réponse à offrir aux Européens. Il faut, disent-ils, que les Européens utilisent les avoirs russes gelés en Europe pour financer l'effort de guerre et ne plus se contenter, comme c'est le cas aujourd'hui, d'utiliser seulement les intérêts dégagés par ces avoirs russes.
Et sur le terrain à Kiev, des explosions ont retenti ces dernières heures, donc la capitale ukrainienne visée par une attaque russe de drones et de missiles.
Sécurité renforcée en Chine, près du site visé lundi soir par une attaque à la voiture bélier.
Particulièrement meurtrière, cette attaque, elle a fait 35 morts selon les autorités qui ont arrêté un homme de 62 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait mal vécu son divorce. C'est ce qui justifierait donc cette attaque. Mais le débat sur les véritables raisons de ce drame est censuré et des lieux d'hommage sont démantelés par les autorités, Eike Schmitz.
Dans la nuit, des bouquets de fleurs et des bougies apportées par des habitants de Zhuhai ont disparu de l'entrée du complexe sportif, transférés dans ce que les responsables du site appellent une salle de deuil. Sauf que personne n'y a accès pour rendre hommage aux victimes de la pire attaque à l'arme blanche de ces dernières années. La police patrouille sur les lieux du drame et empêche la presse de prendre des photos. Sur les réseaux sociaux, tout ce qui ressemble à un débat sur les raisons de cette tuerie de masse est censuré. S'il y a un manque criant d'emploi, une pression énorme pour assurer sa survie, il n'est pas étonnant que la société soit submergée de problèmes, d'hostilité et de terreur, avait notamment écrit un internaute. Un autre poste largement partagé réclamait une enquête approfondie sur les facteurs sociaux qui ont mené à ces attaques aveugles. Car déjà en septembre dernier, un homme avait tué 3 personnes et blessé une quinzaine d'autres dans une attaque au couteau à Shanghai. Et un enfant japonais de 10 ans avait été poignardé à mort dans la mégalopole de Shenzhen.
3 balles en Afghanistan. Un homme a été fusillé en public dans un stade de l'est du pays. Il était condamné pour meurtre. C'est la 6e exécution publique des autorités talibanes depuis leur retour au pouvoir en 2021.
Depuis ce retour, c'est la première fois que les talibans assistent à une conférence climat.
Oui, avec une délégation présente en ce moment à la COP29 de Bakou. Une équipe de 4 personnes qui représentent donc les talibans. Elle participe en tant qu'invitée, mais ne prend pas part aux négociations. Alors au total, cette conférence, elle est suivie par plus de 66 000 personnes accréditées. 66 778 exactement. C'est moins que pour la COP de Dubaï l'an dernier. C'est tout de même la deuxième la plus suivie. Par qui? Vous avez fouillé un petit peu les chiffres, Simon Rosé, et on peut y voir plus clair avec ces chiffres sur les rapports de force.
Oui, assez logiquement, c'est l'Azerbaïdjan, le pays hôte, qui a le plus gros contingent, plus de 2200 personnes. On est très loin des délégations typiques du pays pré-COP28. Seulement 6 personnes participaient alors aux discussions. Vient ensuite le groupe brésilien, 1914 personnes. Là encore, assez logiquement, la prochaine édition sera organisée là-bas à Belém. On peut également s'attarder sur la délégation chinoise, la 5e en taille, avec un peu moins de 1000 personnes. Mais Pékin avait auparavant pour habitude d'envoyer une petite centaine de personnes seulement au COP. Depuis l'an dernier, les délégations sont bien plus conséquentes et en adéquation avec le statut de premier émetteur de gaz à effet de serre au monde. Parmi les 65 000 accrédités, il y a également les ONG. Presque 10 000 militants, les deux précédentes COP en avaient vu plus. Et enfin, il y a ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories. Ils sont 3 000, les officiels de l'ONU, les organisations intergouvernementales et les lobbyistes. Ces derniers étaient près de 2 500 l'an dernier, un record. Pour Bakou, on est encore en train de compter, mais nouveauté pour plus de transparence, un document recensant les noms de tous les participants est rendu pour la première fois disponible.
Simon Rosé, le président de l'Azerbaïdjan, justement hôte de la conférence, a profité de la tribune tout à l'heure pour attaquer une nouvelle fois la France devant des représentants d'États insulaires. Ilham Aliyev a dénoncé l'histoire coloniale de la France et le régime du président Macron dans les territoires d'outre-mer en citant précisément la Nouvelle-Calédonie. L'archipel secoué par des violences ces derniers mois liées à une réforme du corps électoral, vous le savez, bilan 13 morts et des millions d'euros de dégâts. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont justement sur place en ce moment à Nouméa pour tenter de renouer le dialogue. Ils ont rencontré, c'est assez classique, des acteurs politiques et économiques, mais aussi des Calédoniens lors d'une soirée d'échange qu'a suivi Charlotte Manvi.
Deux heures après le début de la rencontre, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher font toujours face à une haie de main levée. Une scène plutôt rare dans l'archipel surnommé le pays du non-dit, mais cette fois les propos sans phare tranchent avec l'habituelle réserve des habitants du Caillou.
Est-ce que vous considérez que vous êtes assez proche de vos colonies lointaines? Parce qu'en fait aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle.
Les prises de parole s'enchaînent, sans surprise le récit des émeutes et les difficultés du quotidien y tiennent une place majeure.
Ici à Nouméa, on ne vit plus, on survit. On compte le nombre de kilos de riz qu'il y a sur l'étagère pour arriver jusqu'au fin de mois.
Stylo et carnet de notes en main, Gérard Larcher écoute. Aidez-nous à être lucides sur ce que vous vivez, avait-il dit, pour ouvrir les débats. Il repart, dit-il, très satisfait.
Ils ont beaucoup parlé, il fallait qu'ils parlent. Et nous, il fallait qu'on écoute.
Dans le public rose, la jeune femme a de grands rêves pour elle-même et son pays. La rencontre lui a redonné un peu d'espoir.
Ce qu'ils ont fait d'inviter la population civile à venir discuter, ben, c'est ce qu'il faut faire. Parce que les solutions, elles se trouvent dans le peuple. Nos politiciens du pays, j'y crois même plus. Même leur présence, je trouve qu'elle était déplacée. Et moi, je pense que ces deux personnes, elles ont rapporté un petit peu de l'espoir dans ce grand mot qu'on attend, l'avenir du pays.
Un avenir dont tout le monde parle, mais sans que personne ne soit parvenu pour le moment à mettre les différentes parties autour de la table. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
En Martinique, autre territoire français d'outre-mer, il est l'une des figures du mouvement contre la vie chère. Rodrigue Petitot dit... L'ER, il a été placé en garde à vue à Fort-de-France. Il s'était introduit dans l'enceinte de la résidence du préfet alors que le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, est actuellement en visite en Martinique.
Trois candidats pour un fauteuil. La présidence de World Rugby, la fédération internationale, se joue demain à Dublin.
En Irlande donc, et parmi les prétendants, le franco-marocain Abdelatif Benazi, l'ancien international, s'est déclaré tardivement. Alors c'est vrai, il part pas favori, mais il veut bousculer un sport qu'il considère encore trop conservateur, Cédric de Oliveira.
Abdelatif Benazi, c'est d'abord un des plus beaux palmarès de l'histoire du rugby français. Ancien capitaine qui compte 78 sélections en bleu, il a aussi disputé une finale de Coupe du Monde. Mais après avoir arrêté sa carrière de joueur en 2003, le Colosse a voulu s'impliquer autrement dans son sport.
Quand on est passionné, on arrête le terrain, mais la passion continue. C'est une continuité naturelle pour moi. J'ai de suite été séduit par ça.
Vice-président de la Fédération française depuis plus d'un an, il s'est lancé dans la course à la présidence de World Rugby il y a seulement quelques semaines pour tenter de faire évoluer un sport encore trop conservateur à son goût.
Le rugby, il est très étiqueté only English speaking countries, que les pays anglo-saxons, cette façon un petit peu de voir l'évolution de ce sport toujours aussi conservateur, ça peut nuire à son développement.
Né à Oujda au Maroc, Benazi veut adopter une stratégie d'ouverture, notamment sur le continent africain, plutôt fasciné par le football.
Je crois en l'Afrique. L'Afrique fait partie de mes priorités. Pour qu'on puisse mettre nos ressources humaines au service de ce continent, présenter un programme d'ouverture à d'autres territoires et puis en tirer les dividendes dans quelques années.
Outsider, Abdelatif Benazi aura pour rivaux l'Australien Brett Robinson et l'Italien Andrea Rinaldo, eux aussi d'anciens joueurs. Le futur président de World Rugby sera élu pour 4 ans.
Et la présidence se joue donc demain à Dublin en Irlande. Dublin où il est 12h15. À vous Anne Cantner.
Merci Charlotte Hydraki. On va continuer à parler de sport tout de suite. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
On va commencer par parler de football avec le coup d'envoi en Afrique de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025.
Une avant-dernière journée déjà cruciale pour certaines équipes condamnées au sans-faute sous peine d'élimination. C'est le cas du Tchad, obligé de gagner contre la Sierra Leone ce soir pour y croire encore. Idem pour le Togo qui doit prendre les 3 points au Liberia pour espérer finir parmi les 2 premiers de son groupe. Et encore, cela pourrait ne pas suffire. Mais qu'importe, le défenseur togolais Josué Omahou se montre positif au micro de Comme l'Aïclou.
Je sens que le groupe il vit bien, tout le monde est plutôt heureux de venir ici. C'est des bonnes augures pour la suite. Le discours du coup, c'est de se concentrer sur nous, de gagner les 2 matchs. Après, on fera les comptes après. On est conscient parce que si on ne gagne pas les 2 matchs, ça serait très compliqué après. On sait que c'est très important pour le pays et pour nous. On va tout faire, on va tout donner pour qu'on puisse se qualifier pour la CAN.
Les Togolais donc déterminés face au Liberia tout à l'heure, avant de défier dimanche prochain la Guinée équatoriale. Un 3e match a lieu aujourd'hui à Johannesburg, entre des Camerounais déjà qualifiés et des Namibiens déjà éliminés.
On continuera à parler de ces éliminatoires dans un quart d'heure maintenant dans Afrique Midi. Et pendant ce temps-là, en Europe, c'est la 5e journée de la Ligue des Nations qui se prépare.
8 matchs auront lieu demain, dont Belgique-Italie, Grèce-Angleterre et France-Israël. Un match au contexte particulier placé à très haut risque par les autorités françaises. 4000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés autour du Stade de France. Côté terrain, une absence de marque, celle de Kylian Mbappé. Didier Deschamps ne l'a pas retenu pour ce rassemblement. C'est le 2e de suite que le capitaine tricolore rate. Après une blessure, c'est à présent une usure mentale qui semble mettre Kylian Mbappé sur la touche. Un coup de moins bien que comprend parfaitement son coéquipier en bleu, Dayo Upamecano.
On est des êtres humains. L'absence mentale compte beaucoup pour nous, les footballeurs. Il faut pas oublier que c'est notre capitaine. Ce qu'il a fait pour l'équipe de France, je pense qu'on manque un peu de reconnaissance envers lui. C'est un ami aussi et je sais de quoi il est capable. J'espère le revoir très vite. Dès qu'il va revenir, j'espère qu'il va reprendre le brassard.
France-Israël sans Kylian Mbappé, c'est demain 19h45, temps universel.
Du tennis avec la suite du Masters masculin à Turin.
Fin de la 2e journée de la phase de poule avec ce soir le duel des vainqueurs de la 1ère journée. Alexander Zverev face à Casper Ruud et dans moins d'une heure celui des battus. Carlos Alcaraz, l'Espagnol, sera opposé à Andrei Rublev, le Russe, qui à l'image de bon nombre de joueurs du circuit comme Daniil Medvedev récemment, n'aime pas trop la direction que prend le tennis ces derniers mois. Trop de puissance, pas assez de variété dans le jeu. Selon lui, l'uniformité des surfaces et de leur vitesse ainsi que la qualité des balles en sont à l'origine. Écoutez André Rublev.
Depuis que j'ai commencé à jouer, je ne sais pas si ce sont les cours, les balles ou les deux, mais quelque chose a changé. Cela a tellement changé que, quelle que soit la marque de la balle, on a du mal à la contrôler. À mes débuts, on pouvait appliquer une tactique, jouer de telle ou telle manière, choisir des zones. Maintenant, le tennis se règle en 2 coups, un gros service et un coup puissant derrière, et c'est fini la plupart du temps. Même si vous avez une tactique, cela ne sert à rien, car vous ne pouvez pas l'appliquer. Tous les joueurs sont impactés et c'est pour cela que beaucoup se plaignent.
L'actuel 8e joueur mondial, Andrei Rublev.
Et chez les dames, c'est la météo qui s'en mêle.
À Malaga, le match d'ouverture de la Billie Jean King Cup, c'est la Coupe Davis au féminin, un match entre l'Espagne et la Pologne. Il a été reporté d'aujourd'hui à vendredi, la faute aux conditions extrêmes qui sont annoncées dans la région andalouse. Des pluies torrentielles, rappelons qu'il y a 2 semaines, dans la région de Valence, un petit peu plus au nord, plus de 220 personnes avaient perdu la vie dans de terribles inondations.
Journal des sports signé Eric Mamrut. L'actualité sportive est aussi sur internet rfi.fr. 13h19 à Paris. Tout de suite notre invité.
RFI Midi, le monde à la mi-journée.
Pour revenir sur les nominations de la future équipe Trump, bonjour Maxime Charvaux.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique. Alors, sans surprise, Donald Trump veut s'entourer de ses proches, avec notamment celui qu'on a vu partout pendant la campagne, dont Donald Trump avait parlé pendant de longues minutes dans son discours de victoire au soir de l'élection, c'est Elon Musk. Lui se voit confier un département sur l'efficacité gouvernementale. Alors, il faut quand même rappeler que ces nominations doivent être validées, elles ne sont pas encore définitives, mais est-ce que vous pensez, Maxime Charvaux, que le milliardaire Elon Musk pourrait effectivement occuper un tel poste légalement?
Alors, Toute la difficulté, d'ailleurs, la difficulté pour l'appréhension de ce nouveau poste, c'est que malgré ce que le titre dit, donc on parle de Department of Government Inefficiency, ce ne sera pas un ministère à part entière. C'est-à-dire que les ministères sont créés par acte du Congrès américain, et donc ici on est plutôt en présence de, alors soit une commission, soit plutôt une task force qui pourrait être soit rattachée auprès de l'agence budgétaire qui est rattaché au président américain, soit simplement une task force au sein de la Maison-Blanche et de l'office du président américain. Et on n'est pas vraiment en présence d'un département. Donc, de ce fait, Elon Musk, comme Vivek Ramaswamy, qui est du coup aussi nommé à la tête de cette commission, cette task force, ne doivent pas passer par le Congrès, le Sénat américain, en tout cas, pour être validés.
Ah, donc, ils vont échapper à cette procédure de nomination traditionnelle. Cette structure, donc, qui devrait travailler en dehors du cadre gouvernemental, Donald Trump en parle comme du nouveau projet Manhattan. C'était le nom de ce projet d'élaboration des premières bombes atomiques américaines dans les années 40. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire de le présenter de cette manière ?
Il y a un énorme coup médiatique, c'est-à-dire que on est sur une des thématiques principales de la campagne, mais même sur un élément de langage assez présent dans les discours de Donald Trump depuis 2015. Hein. Il y a une attaque souvent assez claire à l'encontre du gouvernement fédéral américain, qui est un sujet également qui préoccupe les conservateurs de manière générale depuis plusieurs décennies. Il y a une volonté de taper assez fort, non seulement en annonçant avec le nom de département, enfin de ministère en français, cette task force, et surtout en nommant à sa tête deux personnes extrêmement identifiables et identifiées par les Américains et qui ont été des soutiens durant la campagne présidentielle. Donc il y a une volonté de taper assez fort avec une thématique qui en fait rassemble assez bien l'électorat de Donald Trump, et en particulier l'électorat conservateur.
Sur cette question du gouvernement fédéral, de ces agences fédérales, il y en a quand même qui sont pourtant utiles aux entreprises d'Elon Musk. SpaceX, par exemple, a reçu 10 milliards de dollars de contrats fédéraux au cours des 10 dernières années. Cet État fédéral, c'est un concurrent uniquement pour le milliardaire et pour d'autres hommes d'affaires, ou aussi un appui ?
Oh, alors, je pense qu'il ne faut pas partir du principe que parce que les conservateurs américains et notamment les soutiens de Donald Trump critiquent l'État fédéral, qu'ils, en pratique, vont chercher à réduire l'État fédéral. C'est-à-dire que les présidents de droite comme de gauche depuis les années 80 ont tous, d'une manière ou d'une autre, participé à l'expansion de l'État fédéral. C'est juste que les priorités ne sont pas les mêmes à chaque fois.
Y compris Donald Trump quand il était au pouvoir ?
Donald Trump, quand il était au pouvoir, alors a réduit les budgets, a réduit le personnel du Département d'État, de l'Agence de protection de l'environnement, etc. Mais au même moment, ils ont pu quand même utiliser les forces de l'État fédéral pour un certain nombre d'autres projets ou d'autres thématiques. Donald Trump, peut-être un petit peu moins que ses prédécesseurs, mais la tendance que l'on voit depuis les années 80, c'est que de droite comme de gauche, les présidents ont tous cherché à étendre l'État fédéral. C'est juste qu'à chaque fois, les forces ne sont pas mises sur les mêmes agences, sur les mêmes ministères d'un président comme de l'autre. Donc voilà, encore une fois, c'est vrai que c'est pour l'instant, on a eu un gros effet d'annonce sur ce sujet-là, et il y a une volonté de toute façon de couper les dépenses de l'État fédéral sur certains sujets. Il y a fort à penser que ce ne sera pas des coupes qui seront faites sur le département de la Défense, mais qui seront sur le département des vétérans, mais probablement sur d'autres.
Maxime Chervaux, j'ai l'impression que la ligne se dégrade. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Non, on dirait que non. On va essayer de vous rappeler pour parler donc de ces nominations. Il y en a eu plusieurs au cours des dernières heures. Elon Musk et Vivek Ramaswamy, donc deux hommes d'affaires que l'on connaît bien, on en parlait, donc pour diriger une structure qui travaillerait en dehors du cadre du gouvernement sur cette question de l'État fédéral, avec cette volonté de diminuer le budget et l'ampleur de l'État fédéral dans la politique américaine. Il y a eu aussi des nominations au sein du ministère de la Défense, on l'a évoqué très rapidement. Là, c'est un officier assez peu gradé qui en prend les rênes. Et puis pour la politique étrangère, deux personnalités religieuses poursuivent la situation au Proche-Orient, qui considèrent qu'il n'y a pas de Palestiniens. Là non plus, ça n'est pas vraiment une surprise. Dans tous les cas, dans tous les départements qui sont concernés par ces nominations, Maxime Chervaux. Est-ce que les responsables qui sont nommés, qui peuvent potentiellement être des personnalités assez controversées, seront suivis par leurs administrations et par l'ensemble du Parti républicain, selon vous ?
Alors, pour l'administration, c'est vrai qu'à la différence de la France, il faut garder en tête que lorsqu'un président change, il amène avec lui un changement assez important au sein du personnel des différents ministères. C'est-à-dire qu'on parle en général de près de 4000 fonctionnaires qui vont démissionner à la fin de l'administration Trump et 4000 nouveaux qui vont les remplacer en janvier prochain. Donc il y a derrière les nominations qui sont faites par le président américain également beaucoup d'autres nominations qui doivent passe par le Congrès ou non, mais qui viennent apporter aux nouvelles équipes quand même un certain suivi au sein des différents départements.
Donc a priori, ça pourrait fonctionner. Il nous reste très très peu de temps, mais est-ce que vous pensez que le Sénat pourrait bloquer certaines de ces nominations ?
Pour l'instant, dans ceux qui ont été nommés et qui doivent passer par le Sénat, je ne vois pas vraiment pour l'instant où est-ce que ça pourrait bloquer. Il y a un mélange à la fois de personnalités assez connues, de personnalités qui étaient déjà présentes auparavant. Donc peut-être le nouveau le candidat pour le ministère de la Défense, qui a assez peu d'expérience et qui ça pourrait lui être reproché du point de vue des républicains, même au sein du Sénat. Mais vu l'élection et l'ampleur de l'élection de Donald Trump, je serais assez surpris pour l'instant que certaines personnes ne passent pas le Sénat.
Je vous remercie beaucoup, Maxime Chervaux, d'avoir été en ligne avec nous, professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique et spécialiste de la politique américaine. Merci. Reportage au Congo Brazzaville à présent. Le Congo s'apprête à lancer les travaux de construction d'un nouveau barrage, celui de Sunda, dans le sud du pays. Le but, c'est d'augmenter la production d'électricité dans un pays qui connaît d'importantes coupures et un taux assez faible d'industrialisation. Loïcia Martial.
La rivière Sunda abritera ce nouveau barrage dont le coup d'envoi des travaux de construction sera donné en janvier 2025. Il est situé dans le Kwilu, la région qui abrite Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Thierry Mungala est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
C'est un barrage. On a un coût qui est élevé, qui peut tourner autour d'environ 1300 milliards de francs CFA. La production attendue est quand même comprise entre 600 et 800 mégawatts.
Les travaux s'étaleront sur 5 ans et seront réalisés par l'entreprise chinoise dénommée China Overseas Company Limited. Quant au mode de financement en cette période de restructuration des dettes africaines, l'analyste économique Alphonse Ndongo a bien une idée.
C'est un préfinancement chinois et je crois que ça doit s'asseoir sur le modèle qu'on appelle Built Operate and Transfer, qui veut dire tout simplement que vous construisez, vous exploitez et cela vous permet de vous faire rembourser selon une période de concession que l'État va certainement trouver entre lui et l'opérateur chinois.
Officiellement, le Congo produit déjà 720 mégawatts, dont une bonne partie se perdrait dans le réseau de distribution qui serait mal entretenu selon les spécialistes. La production de Sunda s'ajoutera à cette puissance. À qui va-t-elle servir ? Alphonse Ndongo répond.
Cela va certainement booster l'offre de fourniture d'énergie à des ménages, mais aussi dans un contexte où on parle d'industrialisation, surtout à l'orée de la ZELICAF, c'est-à-dire le marché de libre-échange. Il faut bien que le Congo ait des propositions en matière d'industrie à proposer.
Une analyse partagée par Mermance Babunga de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs.
Nous avons bon espoir qu'avec la construction du barrage de Sunda, le pays va attirer de gros industriels qui viendront vraiment investir dans le pays et cela va participer à créer des emplois que les jeunes attendent.
Le Congo produit déjà plus que ses besoins en consommation locale. Cette différence s'explique par l'exportation d'une partie de son électricité et un réseau électrique pas suffisamment développé pour desservir l'ensemble de la population. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Un reportage à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Vous y retrouvez aussi toutes nos informations. Merci d'écouter RFI. Dans une minute maintenant, l'actualité africaine. À tout de suite.
Bonjour, c'est Tiken Jafakoli. Ce mercredi 13, je serai avec vous toute la journée sur RFI.
Ce mercredi, Tiken Jafakoli est l'invité spécial de RFI.
Et le soir, je vous invite, vous les auditeurs, à mon concert.
À 19h41, ne manquez pas le concert du reggae-man panafricain en direct de la salle Playel à Paris.
Rastafari, African Revolution.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles, Marjorie Bertin.
Tikenja Fakoli sublime son reggae avec des instruments acoustiques. Il sera en concert exceptionnel pour 2 jours à Paris dans une salle mythique, la salle Pleyel. Il nous parle de cet événement en compagnie du compositeur et balafoniste Adama Bilorou.
Vous m'en direz des nouvelles. Du lundi au vendredi à partir de 15h10 TU sur RFI.